Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Aïna Tiemtouré.
À la une de l'actualité, c'est aujourd'hui que se tiendra l'élection du président de la CENI. Hier encore, l'opposition a dit niet à la candidature du Sao Naba et prévient qu'elle n'y siégera pas tant que l'homme n'est pas remplacé. Pour le CFOP, Bonaventure Ouédraogo est un militant du parti au pouvoir. Crise sécuritaire au Burkina Faso, le nombre de personnes déplacées internes connaît une hausse considérable. À la date du 30 juin 2021, le pays enregistre 1 312 071 personnes déplacées internes. Le gouvernement dit entendre les appels au secours des populations. La situation est toujours tendue en Afrique du Sud après l'arrestation de l'ancien président Jacob Zuma. Des pillages et des bousculades ont fait 72 morts. Selon les autorités, et plus de 1200 personnes ont été arrêtées. Les Sud-Africains redoutent à présent des pénuries. On s'intéresse au sport avec notre invité du jour, Yaya Koné, entraîneur de l'AS Douane, vice-champion du Burkina, revient sur le championnat national de football de première division, son intervention en fin d'édition. Après un report, l'élection du président de la CENI se tiendra ce jeudi. À la veille de la date retenue pour l'élection, le chef de file de l'opposition politique a par une conférence de presse déclaré qu'il ne siégera pas tant que Bonaventure Ouédraogo n'est pas remplacé. Le CFOP reproche au candidat, désigné par la chefferie coutumière au titre de la composante société civile, d'être un militant du parti au pouvoir. Il estime que le Sao Naba ne saurait diriger l'institution en toute neutralité. Alinta Ouédraogo nous en dit plus.
La candidature de Bonaventure Ouédraogo à la tête de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante a du mal à passer au sein de l'opposition politique burkinabé. Bonaventure Ouédraogo, selon le CFOP, est un militant du parti au pouvoir. Par conséquent, il ne saurait diriger la CENI en toute neutralité.
Au regard du profil du commissaire de la chefferie traditionnelle, nous avons dit qu'il est très coloré MPP. Il ne faut pas avoir peur de nous, parce que le 15 novembre, nous avons des documents, il a animé la campagne du MPP à Boussé. Il a demandé au MPP d'aller dormir parce que son candidat, Rochmar Christian Kabore, sera élu et que les députés seront élus.
Eddy Kombiogo invite donc la composante société civile, en particulier la chefferie coutumière, à reconsidérer la désignation de Bonaventure Ouédraogo comme commissaire, mais aussi comme candidat à la présidence de l'institution.
Le ministre d'État Clémence Sawadogo, hier, il nous dit clairement qu'il faut saisir d'une manière ou d'une autre, qu'il ne peut rien d'abord pour ce qui concerne le commissaire Bonaventure Ouédraogo, et qu'il nous appartient de saisir les tribunaux. Je vais vous rassurer ici que pour rien au monde, notez-le, pour rien au monde, la composante opposition politique ne saisira les tribunaux contre la chefferie traditionnelle. Tant que le commissaire Bonaventure n'est pas changé, la composante opposition politique ne siégera pas à la CENI. C'est clair, c'est net.
Cette situation est susceptible de créer une crise institutionnelle, source de menace de la stabilité et de la paix nationale, a souligné le CFOP. L'opposition politique a rappelé sa disponibilité à reprendre le dialogue politique à condition que la question sécuritaire soit mieux prise en compte.
Revenons à présent sur le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi. Les appels au secours des zones sous menace terroriste, la situation des personnes déplacées internes et la création d'un Conseil national de la nutrition ont été, entre autres, les sujets abordés. Les détails avec Charles Da et Jacob Campaori.
Situation sécuritaire oblige à ce point de presse du Conseil des ministres. L'insécurité est croissante. Les populations de Titao et de Madjouari sont sous menace terroriste et appellent au secours à travers les réseaux sociaux. Un appel que le gouvernement dit entendre. Ousseyni Tamboura, porte-parole du gouvernement.
Pour ces appels au secours, vous pouvez considérer que ces appels à secours sont entendus et que naturellement donc les réponses militaires et non militaires ont été déjà prises et sont toujours en cours, comme vous le savez. Je venais tantôt de parler des effets de ces attaques qui entraînent des déplacements de population, la situation humanitaire qui vient d'être dépeinte avec des chiffres précis et qui indique également les actions de solidarité qui ont été déployées, me paraissent être des réponses qui, depuis 2016, donc, sont apportées.
La menace persiste, le danger devient permanent, conduisant ainsi les populations à se vider de leur localité depuis 2016 jusqu'à nos jours. Ousseyni Tamboura, porte-parole du gouvernement.
Le Conseil a noté que 237 078 personnes déplacées internes ont été enregistrées au premier trimestre 2021, faisant passer donc le nombre de personnes déplacées internes PDI de 1 074 993 personnes à la date du 31 décembre 2020 à 1 312 071 personnes à la date du 30 juin 2021.
Ces déplacés internes ont bénéficié de 30 000 tonnes de céréales depuis le 21 mars 2021. Le Conseil a marqué son accord pour la création d'un Conseil national de la nutrition qui sera présidé par le président du Faso, Roch Kabore. Cette structure aura pour mission de lutter contre la malnutrition au Burkina Faso.
Juste après ce Conseil des ministres, le président du Faso s'est rendu à Abidjan. Il prend part à une conférence organisée par la Banque mondiale et les chefs d'État africains en vue d'aider la banque à reconstruire, à reconstituer des ressources de l'Association internationale de développement. Le président du Faso, Roch Kabore, a échangé dans la soirée avec le vice-président Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale, Ousmane Djagana. On parle foncier à présent. Le mouvement des jeunes pour la transparence de gestion foncière de Saba n'est pas content. Il a manifesté ce matin pour attirer l'attention du ministère de l'Habitat. Le mouvement demande l'audit de l'attribution des parcelles de la zone Sonature. Notre reporter Romain Ouari revient tout juste de la manifestation. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Romain.
Bonjour Aïna Timtori.
Alors vous avez assisté à la manifestation. Dites-nous quel était le message exactement?
Il faut retenir que la manifestation d'aujourd'hui, le message était adressé au ministère en charge de l'Habitat. Et demain, il prévoit aussi manifester pour donner un autre message aux autorités communales de Saba. Mais pour aujourd'hui, le message est clair. Il demande l'audit de l'attribution des parcelles de la zone Sonature. Et en plus de cela, ils ont dit que depuis qu'ils ont commencé à manifester, à donner des messages, ils n'ont jamais reçu un message venant du ministère de l'Habitat. Donc, ils demandent quand même une réponse des autorités du ministère de l'Habitat concernant les préoccupations de cette zone dite Sonature.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui est prévu pour la suite?
Pour la suite, c'est comme je vous le disais, aujourd'hui c'est au ministère de l'Habitat que le message est adressé, mais il prévoit manifester demain encore. Maintenant, le message sera transmis aux autorités communales dont il pense qu'ils y sont pour quelque chose dans tout ce qui se passe autour de la zone Sonature et bien sûr d'autres dossiers qui ont trait aux fonciers à Saba.
Alors, merci Romain Henri pour ces détails. La ministre de l'économie numérique, des postes et de la transformation digitale a procédé hier à la signature du chemin directeur pour le développement des compétences et le renforcement des capacités dans les TIC en Afrique. Ce document élaboré dans le cadre de l'Alliance Smart Africa permettra aux États de concevoir des projets et des politiques publiques de renforcement des capacités en TIC concrets et efficaces, selon ses premiers responsables, Samir Aguiri.
C'est le Burkina Faso qui pilote le volet développement des compétences du projet de renforcement des capacités et d'éducation en TIC pour l'Afrique. Et ce document signé par le ministre de l'économie numérique est un cadre de référence qui va permettre aux pays membres de Smart Africa de comprendre et prioriser leurs besoins en matière de renforcement des compétences TIC de leur population. Adja Fatouma Tassano, ministre de l'économie numérique.
L'ambition des chefs d'État, c'est que ce soit des experts africains eux-mêmes qui produisent, qui réalisent ces projets digitaux. Et ce document donc va permettre aux pays africains d'élaborer des plateformes intelligentes, des plateformes intégrées pour les Africains. Et maintenant, nous allons travailler bien sûr à aussi exporter ce savoir.
Le développement de contenu éducatif numérique, l'accessibilité de l'Internet au débit dans les universités et l'introduction des TIC au primaire et au secondaire sont entre autres recommandations faites dans le plan d'action. Et le Burkina, en tant que leader dans ce projet, avait déjà entamé quelques actions. Adia Fatouma Tassano.
Depuis l'adoption donc de la stratégie à Kigali, il y a la création d'un certain nombre de filières dans les nouveaux métiers du numérique, dans les universités et les grandes écoles. Nous avons signé un certain nombre de contrats pour permettre la formation continue de nos ingénieurs et aussi avec Smart Africa. Nous avons créé ce que nous appelons l'Académie Smart Africa qui périodiquement organise des sessions de renforcement de capacités à l'endroit des décideurs, par exemple les ministères.
Le document sera adopté en septembre prochain par les chefs d'État des pays membres de Smart Africa avant la mise en œuvre du projet.
Les experts du monde agricole, eux, sont réunis à Ouagadougou à la faveur d'ateliers de deux jours. Du 14 au 15 juillet, ils vont échanger et partager des connaissances sur les risques agricoles au Burkina Faso. Cet atelier organisé par le ministère de l'Agriculture et les partenaires internationaux vise à détecter les aléas naturels et économiques afin de combattre les risques dans le domaine agricole. Le compte-rendu de Pierre Badolo.
L'objectif unique qui réunit plusieurs experts dans la capitale burkinabé est la gestion des risques agricoles. Au sortir de cet atelier, les experts doivent s'attaquer aux risques tout en développant des programmes et projets à travers des outils pouvant mobiliser des ressources pour combattre les aléas dans le secteur. Yassia Kindo, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, des aménagements hydrauliques et de la mécanisation.
Notre pays donc en 2019 a adhéré donc à cette initiative, ce qui nous permet de disposer donc d'un certain nombre d'experts qui vont nous permettre de réfléchir et de poser un diagnostic assez donc scientifique pour révéler les risques majeurs, les causes, les impacts, afin donc de mieux définir des instruments, des outils les plus appropriés pour nous permettre donc de les adresser. Parce que notre secteur, il y a bien sûr les risques naturels, climatiques, il y a aussi les risques phytosanitaires.
Cet atelier sur la gestion des risques agricoles passe nécessairement par une plateforme mise en place par la plateforme pour la gestion des risques agricoles FARM, établie par les partenaires du G20, soucieux des croissances agricoles et ses risques dans les pays en développement. Dans un élan d'étroite collaboration avec le ministère en charge de l'agriculture et des aménagements hydrauliques et de la mécanisation, le FARM entend prioriser les risques. Jean-Claude Bidosiza, expert technique de la FARM.
La plateforme a été établie pour aider les pays en développement de mieux intégrer la gestion des risques agricoles dans les politiques de développement, dans les capacités institutionnelles et dans les investissements pour contribuer à la croissance de la productivité agricole de façon durable. Dans l'étroite collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des aménagements hydrauliques et de la mécanisation, ensemble, identifier, quantifier, évaluer les risques que le secteur agricole fait face. La seconde phase consistera à faire la priorisation des risques.
L'atelier qui a mobilisé en ce jour les acteurs burkinabés et ceux des pays de l'Afrique dans un esprit de partage des connaissances afin de réduire les risques et parvenir à une croissance agricole et la sécurité alimentaire est aussi un cas d'évaluation des outils de développement et de formulation des projets.
Actualité hors de nos frontières au Bénin, le procès de l'opposant Joël Aïvo, candidat recalé à l'élection présidentielle du 11 avril dernier, s'est ouvert aujourd'hui à Porto Novo. Il avait été arrêté au lendemain du scrutin en pleine rue et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le poursuit pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment d'argent. De son côté, l'Afrique du Sud continue de s'embraser. Des pillages et des bousculades ont fait 72 morts, selon les autorités, et plus de 1200 personnes ont été arrêtées. Les Sud-Africains craignent désormais d'avoir à affronter des pénuries de produits de première nécessité. La ministre de la Défense a indiqué mercredi qu'elle avait soumis une requête pour le déploiement d'environ 25 000 soldats. La veille, la plus grande raffinerie du pays a fermé son usine dans la région qui fournit environ un tiers du carburant consommé dans le pays. Des agriculteurs ont affirmé ne plus pouvoir acheminer leurs marchandises. La principale route et voie de chemin de fer reliant la capitale économique Johannesburg et l'Ouest était entravée ou peu sûre. Pendant ce temps en Allemagne, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités locales, au moins 19 personnes ont été tuées et environ 70 sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations dans l'ouest du pays. La police a indiqué jeudi que 6 maisons ont été emportées dans une rivière. Les opérations de secours sont toujours en cours, mais sont perturbées par les accès bloqués selon les autorités du pays.
La revue de presse.
Les tiraillements dus au processus d'installation des commissaires de la CENI, les violences en Afrique du Sud et la fête nationale de la France sont les sujets largement commentés par nos quotidiens Tour d'horizon avec Asma Odaou.
Sur l'actualité relative au processus d'installation des nouveaux commissaires de la CENI, Sidoya titre « La nécessité d'une administration électorale ». Pour le quotidien d'État, en soi, ces tractations sont le signe de la vitalité de notre démocratie, mais en principe, n'avaient pas leur raison d'être. Aujourd'hui, cité parmi les pays exemplaires en matière de maturité démocratique, le pays des hommes intègres gagnerait à aller jusqu'au bout de ses efforts pour s'offrir une institution électorale durable. Exemple de critique, opine le quotidien d'État qui conclut, ce ne sont pas des experts nationaux en la matière qui font défaut. Hors de chez nous, le journal Le Pays revient sur la crise sociopolitique en Afrique du Sud, souligne-t-il dans ses colonnes, quand l'incarcération de Zuma sert de prétexte aux émeutes de la faim. Le confrère estime que Jacob Zuma est l'incarnation parfaite de cette gouvernance en rupture avec les préoccupations du peuple. Le confrère qui relate que depuis la disparition de Madiba, les dirigeants de l'ANC ont fait l'apartheid sans les Blancs, citant les scandales financiers de Zuma entre autres, l'affaire de sa villa privée en Kandla, des faveurs à un richissime homme d'affaires indien, des pots de vin. Pendant ce temps, le peuple abandonné à son triste sort est en proie à une pauvreté endémique selon le confrère pour qui, dans un tel contexte, tout est prétexte à des manifestations violentes. Et c'est ce que pense le confrère Le Quotidien qui écrit « La rançon de la malgouvernance et de la pauvreté ». Pour lui, ce qui se passe en Afrique du Sud doit donc être une leçon sans frais pour ces dirigeants africains qui préfèrent se servir et servir les puissances étrangères et multinationales au lieu de servir leur peuple par une gouvernance vertueuse. L'observateur Palga a, lui, choisi de donner son point de vue sur la fête nationale de la France. En titre, il écrit « Défilé du 14 juillet, le Sahel à l'honneur sur les Champs-Élysées ». Il écrit « La célébration de la fête nationale de l'Hexagone cette année n'a pas connu d'invités de marque venus du continent noir, mais dans la symbolique, elle a eu un cachet africain précisément sahélien ». Ce sont 80 soldats d'élite de la force Takuba qui ont ouvert le traditionnel défilé. En faisant le choix de mettre en premier plan ces militaires, la France aurait voulu signifier qu'elle n'abandonne pas les Sahéliens face à leur malheur, pense le doyen des quotidiens.
L'invité du jour.
L'invité du jour.
Le championnat national de football de première division a tenu le monde du football burkinabé en haleine jusqu'à la dernière journée. Au coude à coude avec l'AS Sonabel, les Gabelous de l'AS Douane se sont résignés à prendre la deuxième place au classement général. Dans l'entretien qu'il a accordé à Radio Omega, son entraîneur Yaya Koné revient sur cette saison et ouvre déjà la brèche sur ce que sera l'AS Douane. La saison prochaine, il est interrogé par Ibrahim Bayeli.
Coach, bonjour.
Bonjour, Monsieur Bailly.
Alors, dites-nous un peu, cette saison 2020-2021 qui vient de s'achever, quel est le bilan que vous pouvez tirer?
Ok, à notre niveau à l'AS Douane, nous pensons que c'est un bilan assez satisfaisant. C'est vrai qu'au départ, notre ambition était de remporter le titre de champion et aussi d'être vainqueur de la Coupe du Faso. Et cela n'a pas été. Mais dans le contenu, au vu de la fin de saison, il y a quand même une satisfaction voilà, que nous permettra donc, de construire l'avenir avec beaucoup plus de lucidité.
Quel était l'objectif en début de saison?
Ok, c'est clair, l'AS Douane, vous savez, c'est un club qui veut jouer chaque année les premiers rôles. Certes, un club jeune, mais très ambitieux, voilà, qui vise le titre. Donc notre objectif, l'objectif qui a été assigné à nous par les dirigeants, par le président Lidjissou et son bureau, c'était que nous ramenions le titre de champion et que nous remportions la Coupe du Faso.
Il mérite la Coupe du Faso. Vous avez fait le plus dur hein, en sortant Salitas. Après, ce fut, j'allais dire, une catastrophe. Qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché?
Ok, bon, en fait, c'est ça. En fait, la plupart des gens ne comprendront pas pourquoi est-ce que l'âge douane peut tomber face à une petite équipe, excusez-moi, en griffe, des témas bouquins. Mais il faut dire que souvent, le football, il y a au jour fixe, c'est-à-dire au jour J, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui peuvent expliquer la performance ou la contre-performance d'une équipe. Alors, il faut dire qu'on avait enchaîné un certain nombre de matchs en championnat. Et on avait fait un déplacement à Bobo-Dioulasso. Et évidemment, on a joué le dimanche à Bobo. Et tout de suite, après Bobo, on devait jouer le mercredi en Coupe de Faso contre l'AS de Mabouquin. Donc déjà, moi, je crains déjà qu'un état de fatigue ne s'installe au niveau des joueurs. Donc c'est ce qui véritablement est arrivé. Parce que lorsque nous avons quitté Bobo, nous sommes rentrés tardivement à Ouara. Le lundi, nous sommes rentrés à Ouara. Et le mardi, il fallait faire le déplacement à Zinyaré. Alors, on a manqué de fraîcheur sur ce match. C'est ce qui a expliqué un peu cette contre-performance.
Jusqu'à l'avant-dernière journée du championnat, vous étiez en tout cas bien placé. À quel moment vous avez su que le titre va vous échapper?
Nous, en aucun moment dans notre tête, on a eu cette pensée. On est resté positif parce qu'on savait qu'on avait un coup à jouer. Donc pour nous, je ne peux pas vous dire à quel moment on a pensé que le titre allait nous échapper. Non, même jusqu'à la dernière seconde, même lorsque Sonabel menait déjà du côté de Bobo à 3-0, que nous, à la première mi-temps, on avait un score nul, parce qu'on jouait contre le Majestic, on avait un score nul. Mais pour nous, on y croyait toujours. On se disait que même en seconde mi-temps, les choses pouvaient basculer du côté de Bobo. Donc on a cru jusqu'au bout. Jusqu'à la fin des 90 minutes. Après, on nous a dit que voilà, là, Sonabel a battu le Racing par le score de 3-2. Donc, à partir de là, okay, on a compris que voilà, les carottes sont cuites. Je pense que c'est la première fois dans le Faso Foot que voilà, le champion ne soit pas connu jusqu'à la dernière journée. Et pour nous, ça a été déjà une satisfaction d'avoir mis du piment, d'avoir gardé le suspense jusqu'à la dernière minute du championnat.
Alors, c'est vrai que vous avez le meilleur buteur dans vos rangs. Il y a deux ou trois joueurs qui doivent vous quitter.
Oui, c'est clair. Assamida, aujourd'hui, est le meilleur buteur avec 22 buts. Je crois que, d'abord, il bat son propre record. Donc, vraiment, c'est une performance à saluer du côté de Assami. Évidemment, quand on est si performant qu'il a été, et forcément, on a des propositions. Et c'est, évidemment, Assami, aujourd'hui... Et sur la tablette de plusieurs clubs. Aussi, il y a Ismaël N'Golo Kanté, aujourd'hui aussi, qui est sur le point de partir. On a aussi Ibé Michael, qui a lui seul a fait 12 buts, qui est également sollicité. Évidemment, on va perdre deux ou trois joueurs, mais nous sommes en train de travailler pour pouvoir trouver des joueurs pour pouvoir remplacer valablement le départ de Assami. Et si départ, il va y avoir le départ de N'Golo et le départ de Ibé Michael.
Quel est l'avenir du coach Koné à l'AS Douane?
Bon, écoutez, coach Koné, je demeure à son poste. Je pense que les dirigeants me font toujours confiance. Il me reste encore une année de contrat.
C'est les vacances? Il y a deux ou trois joueurs qui potentiellement doivent partir, ouais. Il va falloir recruter.
Oui, il va falloir recruter. Déjà, nous sommes bien avancés là-dessus. On a quand même pas mal de joueurs qu'on a vus dans le championnat. Déjà, on a vraiment visé des attaquants qui viendront renforcer notre bastion offensif, à l'image de Traoré Abaka Sidik, qui était du côté de Salitas. On aura aussi l'appui de Ouma Kabore en milieu de terrain. Il y a aussi un beau monde qui vient. Et surtout dans notre axe défensif où nous avons beaucoup pêché. Donc nous activons. Donc avoir des joueurs qui seront vraiment aptes à pouvoir donc corriger ces lacunes que nous avons eues.
Coach, je vous remercie.
Merci beaucoup, Bailey.
C'était l'invité de la rédaction.
Yaya Koné, entraîneur de l'AS Douane, vice-champion du Burkina Faso, était notre invité. Il est revenu sur le championnat national de football de première division. Et voilà qui referme ce journal réalisé par Adama Konaté. Merci de votre fidélité.
Radio Omega, l'info en direct.